Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
C'est l'une des courses les plus mythiques de l'histoire. En 2023, les 24 heures du Mans célèbrent leurs 100 ans. Alpine, Ferrari, Peugeot, Toyota. Derrière les exploits sportifs se cachent des réussites stratégiques mais aussi technologiques. Quel futur de l'automobile dessine cette édition du centenaire? Réponse dans notre spécial 24 heures du Mans d'En route pour demain.
En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, spécial 24 heures du Mans sur BFM Business et Tech & Co.
Ravi de vous retrouver cette semaine sur les lieux d'une course hors norme 24 heures sur un circuit de 13 km. Les 24 heures du Mans sont l'une des épreuves les plus mythiques du sport automobile avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et les 500 miles d'Indianapolis. Mais au-delà des exploits sportifs, les 24 heures du Mans, c'est surtout un laboratoire de tests grandeur nature en conditions extrêmes des nouvelles technologies automobiles. Alors cette année, s'il y a la nouvelle catégorie hypercar avec des hybrides haute performance, eh bien on parle beaucoup de l'hydrogène. Il occupe une place à part entière sur le circuit. Nous sommes allés dans le village hydrogène, le lieu dédié à cette techno, pour rencontrer celui qui pousse cette nouvelle technologie depuis 2018, Pierre Fillon.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
Pierre Fillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la CO, donc l'Automobile Club de l'Ouest, qui organise les 24 heures du Mans. Et en fait, depuis 6 ans, eh bien, vous soutenez un projet, vous travaillez à la promotion de l'hydrogène en course. Le résultat, c'est cette voiture qui est juste derrière nous, hein, la Mission H24. Alors, où en êtes-vous et qu'est-ce qu'on va voir cette année en 2023 avec cette voiture? Elle va concourir pour les 24 heures?
Alors, cette voiture ne va pas concourir pour les 24 heures. Elle a roulé l'année dernière en Road to Le Mans, qui est une course support des 24 heures du Mans. Parce que ça, c'est une voiture laboratoire qu'on a développée avec une société suisse qui s'appelle Green GT et tous nos partenaires. C'est un laboratoire roulant pour apprendre ce que l'hydrogène, c'est pas aussi simple que l'essence à utiliser. Et donc, on a beaucoup appris, notamment au niveau des réservoirs, comment remplir les réservoirs, au niveau de la station de refueling. Mais l'objectif, effectivement, qu'on a depuis 2017, c'est d'arriver avoir une top catégorie au Mans, zéro émission de CO2. Et pour l'endurance, c'est plutôt l'hydrogène qui est adapté, avec un temps de refueling qui est pratiquement le même qu'une voiture à essence et une autonomie qui est pratiquement la même qu'une voiture à essence.
Et donc l'objectif d'avoir cette catégorie particulière, c'est quand? 2026, 2027?
Donc 2026. En 2026, le règlement autorisera un constructeur à venir rouler, se battre contre les hypercars avec une voiture à hydrogène, que ce soit avec une pile à combustible ou avec un moteur thermique à hydrogène.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui justement? Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 3 ans pour arriver à justement avoir cette catégorie sur la piste face aux hypercars?
Vous savez, il faut du temps pour développer ces technologies. Il faut du temps aussi pour écrire les règlements. Par exemple, l'hybride, on a été les premiers à introduire l'hybride au Mans en 2012, mais on a commencé à travailler dessus en 2008 avec Toyota, du reste. Et donc là, c'est un petit peu le même process. Il faut travailler tout ce qui est règlement, donc comment on va ravitailler les voitures, etc. Et puis après, il y a quelques infrastructures à mettre en place, puisqu'il faut, il faut ramener des tuyaux qui vont alimenter les voitures par rapport à des réservoirs d'hydrogène qui seront derrière le paddock.
Donc vous êtes en train de construire des stations à hydrogène ici sur le circuit des 24 heures du Mans?
Alors on a une station, la station hydrogène elle-même, elle sera mobile. Mais par contre, l'acheminement depuis la station jusqu'à la voiture, ça, ce sera des installations qui seront permanentes et qu'on va installer dans les garages d'ici 2026.
Le but, c'est d'avoir, donc, vous nous le disiez, une catégorie zéro émission en course. On sait que l'hydrogène, c'est une solution très prometteuse. On sait aussi que c'est une solution qui est très décriée, notamment selon le mode de production de l'hydrogène. Comment vous allez faire justement pour que ce soit de l'hydrogène vert et pas de l'hydrogène gris, voire marron?
Alors évidemment, l'hydrogène n'a aucun intérêt si ce n'est pas d'hydrogène vert, on est bien d'accord. Et donc notre objectif, ça sera évidemment d'être alimenté en hydrogène vert, c'est déjà le cas. Par exemple, on a une station hydrogène qu'on a installée près de l'aéroport qui ravitaille un bus qui roule dans la ville du Mans, qui va bientôt ravitailler des bennes à ordures, un peu plus de bus, et puis des taxis et des flottes si les entreprises veulent s'équiper. Et notre hydrogène vient de Vendée, puisqu'il est fabriqué en éolien en Vendée. Donc, vous savez, la transition énergétique, ça ne va pas se faire en un jour. Aujourd'hui, l'électricité, elle est pas, tout le monde n'a pas d'électricité verte. Donc, il faut pousser pour développer l'hydrogène vert avec l'éolien. Alors, on peut en fabriquer avec du nucléaire. il y a d'autres inconvénients, mais ça reste zéro CO2.
Dernière question, Pierre Fillon, on sait qu'il y a un autre carburant qui intéresse beaucoup les constructeurs, notamment les constructeurs allemands, c'est le carburant de synthèse, c'est l'e-fuel. Est-ce que c'est une solution qui pourrait vous intéresser à la CO, qui vous semble pertinente autant que l'hydrogène?
Je pense qu'il n'y a pas une seule technologie pour arriver à zéro émission dans les années qui viennent. Il y en aura plusieurs. Il faut trouver quelle sera la plus adaptée. Nous, on utilise déjà depuis deux ans, depuis 2022, aux 24 heures du Mans et dans tous nos championnats, un carburant. Alors, c'est pas un carburant synthétique, c'est un biocarburant, mais dans lequel il n'y a pas une goutte de pétrole.
Qui est développé avec Total.
Développé avec Total, fait avec des résidus vinicoles. Et puis, il y a effectivement les carburants de synthèse qui arrivent. Je pense que c'est intéressant pour la course. Est-ce qu'on arrivera à avoir des gros volumes pour alimenter la Terre entière? Ça, je ne sais pas encore vous répondre.
Merci beaucoup, Pierre Fillon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va tout de suite plonger dans le cœur, dans le moteur de cette mission H24 avec le Team Manager.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
Alors Antoine Larocque nous a rejoint. Antoine Larocque, c'est le team manager de la mission H24. Et alors pour tout vous dire, je dis ça pour nos auditeurs qui nous écoutent en radio, et bien on est carrément assis sur la voiture, on est assis sur le réservoir. Bonjour Antoine, cette voiture, c'est une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça marche, ce type de véhicule?
Donc oui, bonjour Pauline. En effet, on est assis sur la voiture, sur le réservoir précisément, qui stocke l'hydrogène, donc un des trois réservoirs. En fait, si vous voulez, donc nous, c'est une pile à combustible qui fait fonctionner la voiture.
Pas
donc,
un moteur, hein, comme je le disais
voilà,
tout à l'heure.
Non, voilà, pas un moteur, exactement. Nous, c'est vraiment une création d'électricité en fait qui a lieu, de chaleur et d'eau. Donc nous, on rejette que de l'eau, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est zéro émission. Et en fait, pour créer cette électricité, on va se servir donc de l'hydrogène qui est stocké dans le réservoir sur lequel on est assis, plus des deux autres. Et on va extirper donc l'oxygène qui est contenu dans l'air via un compresseur. Donc là, on a l'entrée du compresseur juste ici. On va amener tout ça dans la pile. Il y a une réaction chimique qui va se produire et ça va produire l'électricité. Et c'est comme ça qu'on va propulser la voiture.
Et donc cette voiture, elle peut atteindre les mêmes vitesses, les 300 km/h d'une voiture de course dans la ligne droite d'une autre heure. On est sur les mêmes performances?
Alors, on est un peu en deçà des voitures qui sont aujourd'hui aux 24 heures du Mans. C'est quand même, donc la voiture sur laquelle on est assis, c'est le premier prototype qui a été développé en 2018. Donc on est sur une génération assez ancienne comparé à notre prototype le plus évolué, qui est la H24, qui est exposée dans le village cette semaine, et qui a fait les courses l'année dernière. L'année dernière, on a établi un record de vitesse avec cette voiture-là, donc la H24, pas celle sur laquelle on est assis, de 290 km/h.
Oui, donc on est presque dans des performances voilà, équivalentes à peu de choses près encore.
On n'en est pas loin, une hypercar prend quand même beaucoup plus de 300 aujourd'hui dans la ligne droite de Vinodia.
Bon, pile à combustible, d'accord, il y a des constructeurs qui, eux, envisagent le moteur thermique à hydrogène. C'est une technologie équivalente à cette moteur électrique pile à combustible ou...
Alors, c'est un peu comme un moteur thermique classique, sauf qu'on va venir brûler de l'hydrogène. Donc, on aura toujours une certaine émission, en fait, à l'échappement. Donc, on n'est pas 100% zéro émission. On émet beaucoup moins, quand même, qu'un moteur thermique classique. Après, l'architecture du véhicule va un peu être différente parce que nous, comme on est sur de l'électricité avec de la haute puissance, on a beaucoup de systèmes électriques qui nous permettent de faire avoir des étages différents de tension, ce genre de choses, ce qu'ils ne vont pas avoir sur une voiture thermique classique.
Ça change beaucoup de choses d'avoir une voiture à hydrogène comme ça en termes de, je ne sais pas, quand il va falloir faire changer, que le pilote change, on change le pilote, que quand on change les roues, quand on fait le plein. Est-ce que c'est très différent des contraintes d'une voiture de course classique?
Alors, changement de pilote, non, on n'a pas vraiment de contraintes supplémentaires. Par contre, pour le ravitaillement, oui, c'est un peu différent. On vient quand même faire un ravitaillement simple, un pistolet qu'on vient mettre juste derrière vous, en fait. Le ravitaillement se fait assez rapidement. La seule contrainte, c'est qu'on a des zones, on a des réglementations un peu différentes. Donc, on a des zones dans lesquelles on ne doit pas aller pour éviter qu'il y ait des ondes, ce genre de choses.
Je suppose qu'il y a peut-être des habilitations aussi particulières, vu qu'il y a quand même une batterie, il y a quand même un réservoir hydrogène pour vos mécaniciens.
Ouais, c'est ça. Alors, côté batterie, on aura les mêmes habilitations qu'ils ont en P1, parce qu'ils ont, enfin, en LMDH et en LMH, parce que c'est des voitures hybrides, comme nous. Après, nous, oui, les équipes sont formées donc au risque à hydrogène. Puis on a aussi formé un peu les marshals dès qu'on va de circuit en circuit. On en profite pour transmettre l'expérience pour que s'il y a un problème en piste, parce que ça pourrait arriver, hein, qui ne serait pas forcément lié à l'hydrogène, mais il faut que les marshals soient un peu sensibilisés à cette voiture-là.
Dernière question, 2026, le but c'est d'avoir une voiture en course, d'avoir une catégorie complète. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour arriver à cette échéance?
Bah, aujourd'hui, il nous manque encore, on peut gagner encore beaucoup de poids sur la voiture. Après, nous, le but, c'est pas mettre les voitures sur lesquelles on est assis, de mission H24 spécifiquement, en course aux 24 heures du Mans.
C'est d'amener la technologie.
Voilà, c'est d'amener la technologie, la promouvoir, montrer aux gens que ça fonctionne, que c'est fiable, que ça peut faire un stint, une longueur de faire 10 tours au Mans, voilà, que ça va vite. et c'est ça qui est important aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine Larocque d'avoir été avec nous. Alors eux, ils ne roulent pas à l'hydrogène, enfin ils ne roulent peut-être pas encore à l'hydrogène. C'est l'écurie Alpine, ils seront LMP2 cette année, ils seront en hypercar l'année prochaine. Et Le Mans pour eux, bien, c'est aussi une question d'image puisqu'ils présentent leur nouvelle A110R. Nous étions au Riville.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
Et nous venons donc de retrouver la team Alpine aux 24 heures du Mans. Alors pour ceux qui nous écoutent en radio, nous sommes dans le paddock. Alors nous sommes avec Anthony Villain, designer en chef. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes ici bien sûr pour les 24 heures, pour la course en LMP2, mais vous êtes aussi ici pour présenter la toute nouvelle A110R. Elle est juste derrière nous, la 110R Le Mans. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture?
Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, elle célèbre cet anniversaire qui est unique. Je veux dire, on a une histoire incroyable au Mans. On a gagné en 1978. On court maintenant depuis une dizaine d'années, depuis la résurrection de la marque. Et pour le centenaire, nous avons fait un partenariat avec la CO pour faire une série limitée A110R spécifique. Donc à la fois spécifique sur des éléments design, mais aussi sur quelques éléments techniques.
Alors est-ce qu'on peut la décrire un peu, éléments design? Bon, on voit, il y a l'aileron à l'arrière, il y a les lignes bleues, il y a marqué Le Mans un peu partout. Qu'est-ce qu'elle a de particulier au niveau technique?
Alors techniquement, on a une mise au point du châssis aussi qui est intéressante, puisqu'elle est vraiment dédiée à la vitesse en ligne droite et à la vitesse dans les très grandes courbes. Donc c'est une A110R.
Pour l'une audière, quoi, en fait.
Qui est un réglage d'une audière. La 110R a déjà une performance sur piste exceptionnelle, mais là, elle est vraiment adaptée au Mans. Et après, en design, il y a quelques petits détails. On a les roues qui sont en carbone, comme sur la 110R, mais là, elles sont toutes ajourées pour pouvoir augmenter l'efficience des freins. Et il y a aussi le petit aileron sur l'arrière de la lunette en carbone, qui est aussi un clin d'œil au véhicule qui court aux 24 heures du Mans.
Bon, on est d'accord, c'est quand même une voiture qui est homologuée pour la route, hein, même si elle va surtout faire de la piste.
C'est une voiture homologuée pour la route, qui est extrêmement performante sur la piste et extrêmement joueuse aussi sur la route.
Pourquoi c'est important en termes d'image de présenter cette voiture sur le circuit du Mans, aux 24 heures du Mans, pour l'édition du centenaire?
C'est une des plus grandes courses du monde. C'est une des rares courses internationales qui a encore lieu sur le sol français. C'est une course mythique. Je pense que tous les passionnés aiment Le Mans. C'est une course où Alpine a écrit aussi des pages de l'histoire. Donc c'est très naturel. On est à la maison ici et c'est très naturel de révéler cette voiture ici, dans un contexte qui est juste magique pour ce centenaire.
Au-delà du nom, des réglages, il y a des technologies que vous avez travaillées pendant vos 10 ans, votre décennie de course, qui se retrouvent aujourd'hui sur cette A110 et puis peut-être demain sur les autres modèles qui vont arriver.
Alors tous nos modèles sont inspirés de la course. On a une ADN de course. La marque est née pour la course depuis que Jean Radelet a créé cette marque en 1955. Moi, je viens ici depuis 10 ans. Évidemment, on est complètement imprégné. On travaille avec les ingénieurs en Formule 1, en endurance. Et évidemment, on s'inspire et puis on transfère aussi des technologies de la compétition vers nos voitures de série.
Justement, par rapport à la Formule 1, parce que vous êtes l'un des constructeurs, un peu comme Ferrari, hein, qui est présent dans les deux disciplines, qu'est-ce que ça véhicule comme différence d'image entre Le Mans, l'endurance et puis la F1, un sport aussi mondial?
Alors, il y a une image qui est forte, qui est assez différente, c'est les publics différents. Je pense que Le Mans est finalement un lien plus fort avec les véhicules qu'on peut avoir sur la route, parce qu'il y a de l'endurance, il y a des technologies qu'on peut retrouver. La F1, c'est vraiment la performance ultime. Donc, franchement, armé avec l'endurance d'un côté et la technologie ultime de l'autre, retrouver ça dans nos voitures, c'est ce qu'on peut proposer de mieux à des clients.
Là, bon, cette année, vous courez en LMP2, hein, vous présentez aussi l'hypercar, celle qui sera dans la catégorie Rennes l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va vous permettre justement, cette hypercar, pour développer des voitures de série?
Alors, l'hypercar, déjà, c'est une catégorie, on a couru l'année dernière, mais là, on a créé notre voiture. Et ça aussi, ça fait partie des rêves. En tant que designer, moi, je rêvais de ça depuis que je suis tout petit, donc c'est une opportunité unique. Encore une fois, on va rentrer dans une nouvelle ère de l'endurance, dans lequel on doit être présent. Je pense que les liens vont être de plus en plus forts entre la compétition et les véhicules de série. Donc, rentrer dans cette catégorie parmi les plus grands constructeurs du monde, c'est aussi une preuve de notre ambition en tant que marque.
Bon, et puis alors, on l'a vu un petit peu plus tôt, hein, dans notre tour ici aux 24 heures, il y a l'hydrogène, il y a le concept Alpenglow qui était présenté et qui est présenté tout le week-end pour les gens qui veulent l'avoir. L'hydrogène, ça s'inscrit comment dans la stratégie d'Alpine et puis surtout dans la SQ? Demain, peut-être on roulera avec des voitures à hydrogène en Alpine.
En effet, c'est l'ambition, hein, c'est une technologie zéro émission. Donc c'est extrêmement intéressant. Par contre, pour la compétition, là où c'est intéressant, c'est qu'on a toujours le bruit, par exemple, qu'on n'a pas sur les véhicules électriques. Et puis on a aussi la performance qui est répétable pendant 24 heures. Donc l'hydrogène, en tant que je dirais, technologie zéro mission pour la compétition, on pense que ça a du sens, donc on investit dedans.
Donc hydrogène, pile à combustible.
Non, hydrogène moteur à combustion, c'est vrai, il faut le préciser, en effet, pour avoir le son, et donc c'est une technologie qui fait du sens par rapport à la compétition, c'est pour ça qu'on a exposé ici l'Alpenglo, et oui, ça pourrait être une technologie qu'on pourrait voir sur la route demain, c'est aussi le but de la compétition, c'est d'explorer des nouvelles technologies pour le futur.
C'est plus simple de faire ça en endurance qu'en Formule 1?
Alors, c'est peut-être plus simple, ça a peut-être aussi plus de sens parce que la performance, encore une fois, pendant 24 heures, elle doit être répétable, elle doit être soutenue, donc c'est peut-être une technologie qui est plus appropriée. Voilà, donc, mais après, c'est ouvert, je pense qu'on va explorer toute cette technologie au sens large.
Anthony Villain, merci beaucoup, bonne édition du centenaire des 24 merci. Heures du Mans. S'il y a une autre marque mythique qui a écrit son histoire avec les 24 heures, c'est Ferrari, 9 victoires entre 49 et 1965. On part tout de suite chez la marque au cheval cabré pour parler passion automobile avec un de leurs pilotes.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
Ferrari revient cette année au Mans dans la catégorie hypercar, la catégorie reine, et c'est une première depuis 50 ans. Et dans cette spéciale 24 heures d'en route, eh bien, nous sommes dans l'hospitalité Ferrari où sont reçus les officiels, les invités, et nous retrouvons l'un des pilotes de la toute nouvelle 499P. Hi Nelson.
Bonjour Nelson, dites-nous donc, comment vous vous sentez depuis la semaine dernière, depuis le début de cette semaine de course au Mans?
C'est fantastique d'être de retour, dans la catégorie reine 50 ans plus tard. C'est vraiment énorme. Les fans sont très excités et nous le sommes aussi.
Ferrari fait donc son retour dans une toute nouvelle catégorie, celle des hypercars. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait de conduire une hypercar?
C'est fantastique. Je pense que nous avons la plus belle voiture de la grille.
C'est à cause du rouge Ferrari, ça.
Absolument. La voiture est très rapide et tout le monde est très excité avec la course. Tout le monde est vraiment très excité d'être de retour au Mans.
Everyone is excited to get started with the race and it's like I said, it's amazing to be back here.
Is it the most iconic race?
Est-ce que le Mans est la course la plus iconique? Est-ce que c'est plus fort que de piloter par exemple en Formule 1 ou en IndyCar?
Cette course est tellement iconique, il y a une telle histoire derrière cette course. C'est clairement la course que chaque pilote souhaite un jour gagner. J'ai eu la chance de la gagner déjà en 2021 en GTM. Mais là, revenir avec Ferrari, concourir pour la victoire au général, c'est un cran au-dessus. Nous allons faire de notre mieux pour tenter de ramener le trophée à Maranello.
Qui sont vos meilleurs adversaires dans cette course?
Il est encore trop tôt pour le dire, mais pour tout le monde, le principal adversaire sera sans aucun doute Toyota. Ils ont tellement d'expérience, ils se sont déjà montrés très rapides jusqu'à présent cette saison. Ils seront difficiles à vaincre, mais vous pouvez être sûr que nous allons faire notre possible pour nous battre jusqu'à la fin.
Il y a une relation particulière entre Ferrari et Le Mans à cause des victoires. Pouvez-vous nous expliquer cette relation inédite? Pourquoi entre Ferrari et Le Mans, eh bien, c'est différent d'avec les autres courses, c'est différent d'avec les autres constructeurs?
Comme vous le disiez, il y a tellement d'histoire dans cette affaire. La livrée de la voiture est elle-même un hommage au passé. Je pense donc que c'est une bonne chose également. Revenir après 50 ans, c'est une grande étape. Et avec le centenaire du Mans, ça va être vraiment excitant.
Thank you so much, Nissan Nicolas. Grazie and have a nice race this weekend. Ils sont eux aussi en hypercar cette année, c'est Peugeot. Alors comment on développe une hypercar? Quelles sont les différentes technologies sur ce type de voiture? Alors ils sont revenus après 12 ans d'absence. Julien Bonnet et Bastien Petit se sont rendus il y a quelques semaines chez Peugeot Sport à Satory pour suivre les dernières mises au point de la 9X8 qui court ce week-end au Mans.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans sur BFM Business et Tech & Co.
C'est ici à Versailles que Peugeot Sport a finalisé la préparation de ses 9X8 engagés dans cette édition 2023 des 24 heures du Mans. Au programme, des heures de simulateur pour les pilotes, la préparation au changement de pneus pour les équipes de mécaniciens et bien sûr la confection des différentes pièces pour pouvoir changer différents éléments, voire remplacer intégralement un des prototypes dans cette course dans laquelle il faudra tenir sur la durée. On parle tout de suite de la préparation de cet événement ô combien important pour Peugeot Sport avec son directeur technique, Olivier Jansoni. Donc on a pu voir un peu cette préparation des hypercars pour les 24 heures du Mans. Combien ça mobilise de personnes finalement un programme comme ça?
Alors le programme Peugeot Hypercar, c'est à peu près 120-130 personnes aujourd'hui. C'est le cas depuis 2020, le démarrage du programme, avec des métiers qui ont un petit peu changé. Initialement, au début, c'était essentiellement des métiers de conception, d'achat et de montage voiture. Et aujourd'hui, on a vraiment une équipe d'exploitation qui est restée une pôle de conception, mais qui est un petit peu moins gros qu'il y a deux ans. Et par contre, effectivement, assemblage et exploitation des voitures de course.
Donc c'est le grand retour de Peugeot aux 24 heures du Mans. Finalement, les enjeux aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être un petit peu cette hypercar, qu'est-ce qu'elle a comme motorisation par exemple, et donc quels seront les grands défis en termes de fiabilité?
Parmi les hypercars, il y a différents règlements techniques. Le règlement technique a choisi Peugeot, le Mans Hypercar 4 roues motrices hybrides. C'est un règlement qui à la fois nous donne un maximum de performance, mais également est très complexe, notamment avec des voitures hybrides. Donc une complexité liée à un powertrain 4 roues motrices hybride avec un moteur électrique sur le train avant, un moteur thermique sur le train arrière. Et donc le challenge finalement, c'est de garantir la fiabilité sur ce système hybride pendant plus de 24 heures en réalité, puisque ça commence dès la journée d'essai le dimanche avant la course.
Oui, on en parlait beaucoup dans l'actualité récemment, justement comme potentielle alternative aux motorisations 100% électriques avec l'objectif 2035 de l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet objectif justement d'utiliser uniquement des carburants de synthèse? Est-ce que c'est une difficulté dans un contexte de compétition, et comment vous voyez aussi cette future offre, on va dire, de carburants de synthèse pour le grand public?
Alors pour l'instant, nous on est vraiment concentré sur cette application de ce carburant donc 100% renouvelable qui nous est fourni par notre partenaire TotalEnergy. C'est ce qu'on appelle un carburant drop-in. Donc un intérêt pour nous, c'est que c'est un carburant qui vient remplacer le carburant existant, qui est 100% renouvelable et qui a nécessité très très peu d'adaptation. Donc ça, je dirais pas que ça s'est fait sans aucun changement. Il y a eu quelques adaptations pour arriver à optimiser le fonctionnement de notre moteur avec ce carburant. Néanmoins, ça a été relativement léger. Et c'est toute la puissance en fait du travail qui a été fait en amont par TotalEnergy. C'est d'arriver à développer un carburant qui puisse s'adapter quasiment du jour au lendemain sur des moteurs existants qui avaient été développés sur la base d'un carburant fossile.
On a vu également le travail en salle de simulation. Aujourd'hui, j'imagine que c'est fondamental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce programme?
Alors oui, c'est effectivement fondamental pour nous. Ça a été en début de projet pour fixer un petit peu le cahier des charges de la voiture. Tant qu'on n'avait pas de voiture, entre guillemets, physique pour rouler et faire des essais physiques, on a fait beaucoup d'essais virtuels à ce moment-là. On a développé le simulateur quasiment en même temps que la voiture, avec un effort important qui a été mis en œuvre pour arriver à rendre ces simulations le plus proche possible de la réalité et les plus réalistes possibles. Et aujourd'hui, on a une autre utilisation du simulateur qui le préparait les courses. Donc il faut comprendre qu'avant de rouler aux 24 heures du Mans, nos pilotes vont rouler des heures et des heures sur les simulateurs, simuler la piste. Ils vont donc simuler, d'abord apprendre la piste un petit peu. Nous, ça nous permet en tant qu'ingénieur de pré-régler la voiture. Donc, on ne règle pas 100% ce simulateur, mais déjà, on ferme des portes, on prépare des options de réglage qu'on pourrait essayer après dans le temps de piste qui est quand même relativement limité. Et puis également, ça peut être de réviser un certain nombre de procédures sur la voiture, des procédures qui sont spécifiques. Je pense à celle de safety car, par exemple, qui est spécifique aux 24 heures du Mans, qu'on rencontre nulle part ailleurs, mais également des procédures voiture. D'utilisation de la voiture aujourd'hui qui vont répéter jusqu'à ce que ça devienne des automatismes complets.
Et l'intelligence artificielle a un vrai rôle, on va dire, avant et pendant la course?
L'intelligence artificielle, elle est implémentée non seulement aujourd'hui dans notre simulateur, mais surtout dans notre voiture. C'est-à-dire que c'est une partie des challenges techniques de ce projet également. On a des limitations qui sont d'ordre sportive. Je vous donne un exemple. Par exemple, on est limité pendant la course sur le nombre de capteurs qu'on a sur la voiture. Et néanmoins, des informations qui sont assez vitales pour nous, pour le pilotage de nos stratégies de performance ou de fiabilité, et donc qui ne sont pas disponibles réglementairement. Et notamment, une des applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'émuler ces capteurs en mesurant d'autres signaux sur la voiture, en recalculant, parce qu'on a pu apprendre quand les capteurs étaient présents, en recalculant ces informations manquantes qu'on va utiliser ensuite par de la stratégie. Donc ça, c'est une application concrète de l'intelligence artificielle et qui est au cœur de nos challenges techniques aujourd'hui.
Alors on sait donc deux voitures engagées par Peugeot Sport dans ces 24 heures du Mans, mais finalement on a pu voir pas mal de pièces dans cette mini-usine presque ici à Versailles. Finalement, avec combien de pièces vous partez au Mans?
Alors c'est très variable suivant les composants, mais c'est vrai que c'est important de noter qu'on voit la partie publique, c'est deux voitures en piste. Et ce qu'on imagine assez mal quand on ne connaît pas la discipline, c'est le nombre de pièces détachées et de secours qui sont assemblées. Aujourd'hui, on peut estimer en moyenne que c'est équivalent à monter à peu près entre 6 et 7 voitures. qui vont être assemblés, alors qu'ils ne seront pas assemblés au final, hein, mais qui vont rester au stade de sous-ensemble, façon à pouvoir alimenter nos voitures en secours et également en pièces. Hors problème, il y a effectivement des pièces de secours qui sont préparées pour d'éventuels problèmes de fiabilité. On peut avoir aussi des crashs, c'est quelque chose qui arrive malheureusement, avec des voitures qui ont besoin d'être reconstruites. Mais aussi, dans notre plan nominal, on a déjà prévu des changements d'organes pendant la semaine préparatoire au Mans, de façon à arriver au départ des 24 heures, avec à la fois les pièces les plus fraîches possibles en termes de kilométrage, mais également suffisamment éprouvées pour s'assurer qu'on a pu éliminer un éventuel problème de montage par les essais avant.
Ouais, écoutez, ça me semble très complet. Merci beaucoup et puis bonne chance pour ces 24 heures du Mans. Beaucoup d'enjeux donc pour Peugeot et ses deux 9X8 engagés cette année aux 24 heures du Mans, en espérant que la marque au Lyon pourra renouer avec la victoire 14 ans après celle décrochée en 2009 avec la mythique Peugeot 908 HDI.
En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, spécial 24 heures du Mans sur BFM Business et Tech & Co.
L'hypercar de Peugeot, la 9X8, eh bien, elle est juste derrière nous ici. Hein, nous sommes dans la fan zone des 24 heures du Mans. La voiture est exposée pour que le public puisse la voir sur la piste, mais aussi l'admirer d'un peu plus près en dehors. Et on la reconnaît vraiment du premier coup d'œil, cette voiture, parce qu'elle a un design vraiment particulier. Bonjour Mickaël Trouet.
Bonjour.
Ce design, on vous le doit à vous, puisque vous êtes responsable design de Peugeot Sport. Alors il y a une question qu'on a envie de vous poser immédiatement. Pourquoi il n'y a pas d'aileron ?
Eh bien, parce que on souhaitait vraiment que cette voiture incarne l'idée d'efficience qui est chère à Peugeot et qu'elle se distingue également par une silhouette assez unique, une posture inédite. Et on a la chance que le nouveau règlement des 24 heures du Mans et du WEC laisse une possibilité au design de marque de s'exprimer dans la silhouette de la voiture et aussi dans des signatures plus localisées qu'on a aussi essayé d'apporter.
Mais alors justement, vous me parlez d'efficience, d'avoir de l'appui avec un aileron, c'est pas justement censé permettre à la voiture d'être plus efficace, notamment dans les lignes droites ?
Il y a plusieurs manières d'avoir de l'appui, de gérer la traînée et l'appui sur une voiture. On peut le faire par l'aileron, on peut aussi le faire d'autres manières, sous la voiture par exemple. Donc encore une fois, on profite des libertés offertes par ce règlement pour choisir. Le règlement, au lieu d'imposer des solutions techniques, donne plutôt une cible de performance à atteindre. Et on atteint cette cible de performance d'une manière inédite, sans aileron.
Justement, vous nous parlez de liberté dans le design. C'est quoi le cahier des charges pour dessiner une hypercar ?
C'est une voiture qui soit identifiable, une voiture qui soit unique, qui se distingue de ce qu'on verra par ailleurs, et surtout une voiture qui soit très porteuse d'une identité, de code de marque, d'un ADN de marque Peugeot pour nous. Donc à la fois dans la posture de la voiture, dans sa silhouette, dans son attitude quand elle est sur la piste, et puis également par des codes de marque plus localisés comme les signatures lumineuses, ces griffes très identitaires, ou le blason qui est fièrement posé sur la face avant de la voiture et qu'on voit de très loin.
On voit hein, ce côté, moi ça m'a beaucoup surpris ici au Mans, enfin dans cette nouvelle catégorie hypercar, c'est ce côté, ce design très particulier, on reconnaît vraiment chaque voiture. C'est une nouvelle volonté de quoi ? De justement peut-être plus incarner les marques, de finalement voir qu'on voit plus la marque sur la voiture que juste la performance ?
Oui, bien sûr, c'est très important que les voitures soient très reconnaissables d'une marque à l'autre, pour que le public puisse facilement s'identifier. C'est important aussi de cultiver le lien qu'on a en termes d'identité entre les voitures de course et les voitures de production. Cette voiture, qui est une voiture hybride, partage le même type de technologie que nos 508 Peugeot Sport Engineered. Donc il y a un vrai lien technique, il y a une vraie filiation, et c'est important que cette filiation elle soit aussi visible, reconnaissable depuis le bord de la piste pour le public.
Alors ce côté, le 24 heures du Mans, laboratoire des nouvelles technologies, bon, on le voit, hein, c'est l'historique de la course, hein, c'est pour ça qu'elle a été créée. Est-ce qu'il y a aussi une filiation design ? Est-ce qu'il y a peut-être des éléments de dessin de cette voiture où vous dites, tiens, demain, sur une voiture électrique de série, bah, ça peut nous servir de réutiliser ce coup de crayon, de réutiliser cette forme de pièce ?
Il y a bien sûr le 9X8, comme nos concept cars et comme d'autres exercices internes, sont aussi des laboratoires qui nous servent à expérimenter des choses, à pousser plus loin la création. Et sur cette voiture, bien sûr, on s'est attaché à avoir des signatures lumineuses très, très reconnaissables qu'on retrouve aussi maintenant sur nos voitures de série avec ces griffes en signature lumineuse à l'avant, à l'arrière. Encore une fois, le blason qui est bien disposé sur la voiture, très visible. Et puis cette notion de fluidité, d'efficience, une posture assez unique qui est aussi quelque chose bien sûr avec des contraintes différentes, des morphologies différentes, mais qu'on essaye aussi de travailler sur nos voitures de production.
On le voyait hein, dans le reportage juste avant, hein, quand on est allé à Satory, il y a beaucoup de développement par informatique, de tests sur simulateurs, etc. Bon, ça c'est pour tout ce qui est moteur, côté technique. Est-ce que vous aussi, justement, côté design, vous travaillez de plus en plus en 3D? Est-ce que vous faites moins de vraies maquettes? Enfin, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous utilisez toute cette informatique aujourd'hui pour dessiner?
C'est très complémentaire et on utilise toujours les deux. On utilise des maquettes et on utilise beaucoup de numérique, de plus en plus de numérique en CAO, en rendu photoréaliste, en réalité virtuelle. On utilise aussi des casques de réalité virtuelle. Donc oui, le numérique prend de plus en plus d'importance, mais le physique, le modelage physique est toujours d'une grande richesse et permet de régler encore beaucoup de choses. Et donc les deux sont complémentaires et nous utilisons les deux. Ouais.
Est-ce que, parce qu'on en parle beaucoup, hein, on en a parlé déjà dans la manière de concevoir la voiture, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui demain pourrait vous aider, vous donner, je ne sais pas, des premières lignes, peut-être un design un peu fou et puis après vous retravaillez, ça serait une possibilité?
C'est difficile de savoir où va nous emmener l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est extrêmement excitant de s'y intéresser et de commencer à explorer les possibilités que ça peut offrir.
Sur le côté voiture de série dont vous nous parliez, c'est facile de passer du design d'une voiture de course à un design peut-être plus classique, d'une 308, d'un 5008 ou d'une autre voiture. Comment on jongle finalement entre les deux?
C'est très intéressant de jongler entre les deux parce que à la fois les contraintes, les cahiers des charges sont extrêmement différents. Et en même temps, la démarche, le principe de travail reste assez semblable. On a des contraintes de tous ordres qui sont techniques, aérodynamiques, réglementaires, etc. Et puis, bien sûr, une intention design, une intention de marque. Et il faut arriver à converger, à rendre l'intention réaliste, à faire en sorte qu'on ne perde rien de la force de l'intention initiale dans l'objet final, tout en respectant l'ensemble de ces contraintes. Donc finalement, avec encore une fois des contraintes qui sont d'ordre très différent entre une voiture de production et une voiture de course, la démarche pour les équipes, la démarche de convergence reste assez semblable.
Sur cette voiture-là, c'est quoi l'élément dont vous êtes peut-être le plus fier, où vous vous dites là vraiment on a réussi à allier le côté esthétique et performance sur cette voiture?
Je dirais à la fois la silhouette de la voiture, puisqu'on a la chance ici de la voir en mouvement, en dynamique. La silhouette de la voiture est assez unique, bien sûr avec l'absence d'aileron arrière, mais pas seulement. Et puis aussi l'autre élément qui nous rend très fiers, c'est encore une fois d'avoir pu intégrer de manière aussi visible et reconnaissable ces éléments, ces signatures de marque qui nous tiennent à cœur et qui permettent là aussi de reconnaître la voiture de très loin. On a joué avec ces codes, par exemple avec le blason devant qui laisse passer, qui est aussi une entrée d'air. Donc on a essayé
de combiner. Le blason devant, c'est pas simplement pour faire le clin d'œil aux voitures de série, ça a aussi une fonction technique.
Exactement, exactement. Et donc on a essayé de combiner les impératifs techniques avec ces signatures de marque qui sont très importantes. Et à l'arrière, par exemple, l'air passe aussi à travers les griffes des feux arrière. Donc c'est aussi une zone d'extraction d'air.
Dernière question, hein, Michael. Je sais que vous allez me dire que c'est elle la plus belle, mais il y a des éléments de design sur d'autres modèles où vous vous êtes dit, tiens, ça c'est intéressant et on peut se noter ça pourrait nous servir demain?
On regarde avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'intérêt tout ce que tout le monde a fait. Mais encore une fois, ce règlement, il a la particularité de laisser à chaque marque la possibilité de s'exprimer avec ses propres codes. Donc, on continuera chez Peugeot à faire des Peugeot et on laisse à nos confrères la même possibilité d'exprimer leur code de marque. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, les voitures sont différentes et avec un plateau qui est riche et qui est...
Et plus facilement reconnaissable pour le téléspectateur.
Exactement.
Merci beaucoup, Michael Trouvé, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette spéciale 24 heures du monde d'En route pour demain. On va continuer à notre exploration, notre plongée au cœur de Peugeot, des stands Peugeot et du retour de la marque aux 24 heures avec le patron sport auto de Stellantis.
En route pour demain, spéciale 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
Nous sommes un peu déplacés autour de la 9X8. Nous sommes toujours dans la fan zone Peugeot sur le circuit des 24 heures du Mans. Et on a parlé beaucoup de design avec Michael Trouvé. On va maintenant parler technologie avec Jean-Marc Finot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le patron du sport auto chez Stellantis. On avait envie de vous demander déjà, cette 9X8, c'est le retour de Peugeot dans la catégorie hypercar. Ça fait une grosse dizaine d'années que vous n'étiez plus présent dans la catégorie Rennes au Mans. Quelle nouvelle technologie vous amenez avec cette voiture?
Alors, le retour de Peugeot en endurance, c'est une fête et un moment d'émotion pour la marque et puis donc pour tous les acteurs. Donc, on est vraiment particulièrement content d'être ici. Donc, on a choisi de s'engager dans ce championnat parce que la course, l'endurance, les 24 heures du Mans, c'est dans l'ADN de Peugeot. On y a déjà gagné trois fois et puis on aimerait, même si c'est compliqué, c'est difficile, il faut se battre, donc rééditer ses exploits. Et c'était aussi un laboratoire technologique pour développer les nouvelles technologies, en particulier l'hybridation qui est développée sur nos véhicules de série 508 PSE et puis aussi décliné. Donc c'était le principal vecteur du choix de notre engagement.
Donc hybride, une techno qui est sur cette voiture et qu'on retrouve sur les voitures de série. Vous avez un ou deux autres exemples concrets de technologies que vous éprouvez sur la piste ici pendant 24 heures et qui demain pourront arriver sur la gamme Peugeot?
Oui, absolument. Alors même au-delà des technologie, on a aussi un sujet de compétences, c'est-à-dire que les compétences qui sont développées pour cette voiture, que ce soit purement en termes techniques ou en termes de savoir-faire, de savoir-être, par exemple pour des délais très courts, pour des prises de décision très rapides, c'est aussi des compétences qu'on fait tourner, qui travaillent au motorsport et qui retournent également à la série. Donc sur des points technologiques précis, en partenariat avec Total Energy, on développe une batterie spécifique pour cette voiture qui a des très fortes capacités de récupération d'énergie et de release de cette énergie. Donc c'est vraiment de la technologie au meilleur niveau mondial et c'est les premières batteries qui sortent du partenariat entre Total Energy et le groupe Stellantis sur ces batteries. Donc on a parlé des usines à Douvrin il y a quelques semaines et donc les premiers exemples sont sur la voiture. On a aussi d'autres partenariats avec Capgemini, donc avec l'équipe Peugeot Sport, sur la gestion des données et l'intelligence artificielle.
Ah oui, comment vous utilisez justement l'intelligence artificielle? Parce qu'on en a un petit peu parlé quand on est allé chez vous à Satori, on a vu le reportage il y a quelques minutes. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle?
On a des cas très, très concrets. Nos voitures sont d'abord développées sur un simulateur, donc on fait les réglages de la voiture sur le simulateur, les pilotes s'entraînent sur le simulateur, mais le simulateur a besoin d'être parfaitement corrélé avec la réalité. Donc quand on fait des essais, on mesure un peu plus de 500 données en continu sur la voiture. Donc vous imaginez le monceau de données.
C'est quoi les données? C'est la température des pneus? C'est la pression sur certaines parties de la voiture?
C'est exactement ça. C'est des accélérations latérales, des accélérations verticales, des variations de vitesse. Donc les ingénieurs sont intarissables et ont toujours de très grands besoins. Et après, il faut gérer ces données. Et donc on a défini ce qu'on appelle un data lake. Donc quand les ingénieurs reviennent de leur séance d'essai, ils versent toutes leurs données dans ce data lake qui fait des calibrations automatiques et qui nous permet de recaler le simulateur pour retrouver la réalité sur le simulateur, pour faire la mise au point de la voiture, entraîner les pilotes, définir les paramétrages qui seront testés au banc et qui retourneront sur la voiture.
Et qui du coup permettront à la fois après de faire, d'améliorer la voiture de course.
L'objectif est d'avoir une boucle vertueuse et de progresser step by step.
Est-ce que vous utilisez comme en Formule 1, on sait qu'il y a en Formule 1 il y a beaucoup de données publiques, notamment des autres équipes, où on sait qu'on peut écouter les conversations, tout ça c'est très... Et du coup les écuries se servent aussi de l'intelligence artificielle pour déceler des mots qui reviennent et du coup peut-être des stratégies évolutives. On va aussi dans ce degré de détail en endurance
donc on utilise l'intelligence artificielle pour la gestion de données, pour la reproduction de certains signaux. Par exemple, il y a des capteurs qu'on peut utiliser en essai mais qu'on ne peut pas utiliser en course. Donc on sait reconstruire les informations et avoir des capteurs virtuels qui nous permettent d'avoir l'information disponible sans avoir le capteur. Et on l'utilise aussi pour les stratégies de course, telles que les exemples que vous donnez, ou aussi pour les stratégies de gestion d'énergie, parce que sur un tour, à chaque virage, on emmagasine de l'énergie, l'accélération suivante, on relâche de l'énergie et on doit toujours être dans une fourchette d'optimisation, et pour ça, on utilise l'intelligence artificielle.
Vous nous disiez à l'instant que c'était aussi laboratoire technologique. On parlera du côté laboratoire d'image avec Linda Jackson tout à l'heure. On sait aussi que du coup, c'est finalement un laboratoire de ressources humaines, parce que ces personnes qui vont être obligées de se dire, bon là, j'ai 30 secondes pour choisir si finalement on la fait rentrer, on met les pneus pluie, on change, etc. Ça va permettre d'accélérer le développement des voitures de série demain, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure?
C'est déjà le cas. Donc c'est aussi essentiellement une aventure humaine, parce que sans les hommes et sans leur engagement, ce genre de programme, les hommes et les femmes, et leur engagement ne serait pas possible. Donc il y a beaucoup d'émotions. Donc là, par exemple, pendant la semaine du Mans, vous imaginez que les heures de sommeil sont très rares et les équipes travaillent d'arrache-pied
pour... Il faut garder son sang-froid.
Pour donner le meilleur. Oui, mais ça, c'est incontournable. En fait, c'est un prérequis. Si on était trop sensible, c'est un métier difficile. Et donc ces équipes, donc c'est un programme qui a été décidé il y a 3 ans. Donc on est parti d'une feuille blanche et même si Peugeot Sport avait un historique, il a fallu reconstruire les équipes. Donc même très tôt, on a pris les pilotes pour qu'ils fassent partie de la famille, qu'on puisse bénéficier de leur savoir-faire, de leur retour d'expérience. Et en fait, c'est une famille ou une équipe qui travaille comme un seul homme. Donc on apprend les rouages, des processus qui deviennent des automatismes et tout fonctionne. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la partie la plus attractive, qui suscite le plus d'émotions et donc le plus d'engagement. Et ces compétences qui donc sont entraînés à prendre des décisions très vite, à décider dans des délais très courts, nous permettent de faire des véhicules sportifs comme la 508 PSE, donc qui a été développé par les équipes de Peugeot Sport, donc avec un niveau de performance qui est hors du commun, donc par rapport aux productions habituelles, des délais de développement qui sont aussi particulièrement courts, et puis des applications d'algorithmes, par exemple l'algorithme de gestion d'énergie de la 508 PSE en mode sport et l'algorithme qui a été développé pour Le Mans.
Donc ça veut dire que finalement c'est un laboratoire dans les deux sens, c'est la course qui permet de développer les voitures de série mais c'est aussi les voitures de série de temps en temps qui permettent d'aider pour la course.
De toute façon c'est du bouclage, la course c'est des ingénieurs ou des techniciens qui sont multi-compétences, donc ils vont avoir un très gros panel de compétences, ce qui permet d'être très réactif, de ne pas avoir d'interface et de gagner beaucoup en délai. Par contre c'est un niveau de spécialisation qui est inférieure à ce qu'on peut trouver sur la recherche et développement mainstream où il y a beaucoup plus de personnes. Donc on a à la fois ce dynamisme et la possibilité de s'appuyer sur toutes les compétences du groupe quand on a des sujets techno précis, et on trouve toujours le collègue ravi de travailler pour le sport dans l'entreprise qui va apporter un soutien et son expertise pour le bon fonctionnement de la 9X8.
L'hypercar, ça vous a donné, la réglementation permet quand même d'avoir un large panel de choix. Comment vous imaginez le sport automobile demain? Parce qu'on voit que bon, il y a bien sûr des formules électriques, je pense à la Formule 1, on voit aussi qu'on parle beaucoup d'hydrogène ici au Mans, il y a la question des carburants de synthèse. Comment vous voyez-vous un petit peu le futur du sport automobile se dessiner, notamment avec une vision Stellantis que vous avez, puisque vous chapeautez le sport auto pour le groupe?
Donc notre stratégie est de s'engager dans des championnats qui supportent les nouvelles technologies. Donc on a d'autres marques, DS et Maserati, qui sont engagées en Formule E. Là, on supporte l'hybridation, mais toutes les technologies qu'on développe sur un véhicule hybride sont applicables aussi sur un véhicule électrique. On a associé aussi, pour avoir vraiment toutes les cordes à notre arc, puisque Stellantis étant un groupe mondial, il faut être adapté pour les pays, on va dire, fortement électrifiés, mais aussi adapté pour les pays moins électrifiés. Donc sur les hypercars, on travaille avec un carburant renouvelable qui permet de réduire les émissions CO2 du puits à la roue de 66%, ce qui est quand même très conséquent. À savoir que sur un événement comme les 24 heures du Mans, moins de 2% des émissions sont dues aux voitures et aux pneumatiques.
Oui, tout le reste, c'est le circuit, c'est les camions, etc.
Donc, c'est un événement sportif, par exemple, les 24 heures du Mans émettent 10 fois moins de CO2 que le Tour de France vélo et 100 fois moins que la Coupe du Monde de football. Et par contre, ils permettent de développer des technologies qui vont assurer la liberté et la mobilité de demain. Donc, par exemple, ce qu'on fait sur l'hybridation ou ce qu'on fait sur les carburants renouvelables.
Mais écoutez, Jean-Marc Finot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon, on l'a vu, un laboratoire technologique. On va maintenant parler, je vous le disais à l'instant, du côté laboratoire images et communication que peuvent être les 24 heures du Mans avec Linda Jackson.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
Le Mans, c'est une compétition automobile, hein, ça vous l'aurez bien compris depuis que vous êtes avec nous depuis le début de cette émission spéciale d'En route pour demain, mais c'est aussi une question de communication, d'image pour les marques, surtout avec cette nouvelle catégorie hypercar. Et on avait très envie d'en parler avec vous, Lina Jackson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Peugeot. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pourquoi Le Mans, pourquoi c'est aussi important pour un constructeur automobile français comme Peugeot d'être présent sur cette compétition?
C'est une bonne question. Mais je crois qu'effectivement Peugeot fait une partie de l'histoire de Le Mans et l'inverse. Effectivement, Le Mans, c'est une partie de l'histoire de Peugeot. Avec nos victoires 1992, 93, 2009. Et donc, c'est très important, c'est un événement français. C'est peut-être l'événement sportif le plus important de l'année pour la France. Nous sommes une marque française. Et aussi, pour fêter cette occasion de centenaire, nous avons fait un livery spécial signé par Dembski, c'est une artiste, pour fêter le lien avec le 905, la victoire de le 905 avec le couloir de le 905. Donc évidemment, c'est quelque chose de très spécial pour nous.
Ça vous permet de vous plonger dans l'histoire. Les hard cars, c'est aussi extrêmement instagrammable, on ne va pas se le cacher. Du coup, c'est aussi une nouvelle manière pour vous d'essayer de communiquer, de faire en sorte d'utiliser les nouveaux codes des réseaux sociaux, peut-être ?
C'est exactement ça. Et aussi pour tirer les jeunes, parce qu'effectivement, on cherche les clients plus jeunes, par exemple. Il faut aller dans, par exemple, les médias sociaux. Il faut trouver les choses pour attirer les clients. Les jeunes aussi, mais aussi les clients. Parce que franchement, chaque événement comme ça, pour nous, c'est aussi un événement pour activer, pour fédérer notre réseau. C'est une façon d'attirer le client, mais aussi d'activer le business. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, pour notre réseau de concessionnaires aussi.
Est-ce que c'est pour ça que vous êtes revenu? Vous me parlez de business, d'attirer les clients, finalement presque avant la victoire, même si je pense que c'est ce que vous souhaitez pour ce week-end. On se dit, est-ce que finalement c'est aussi pour ça que vous êtes revenu dans cette catégorie hypercar, puisqu'il y avait cette liberté finalement, que ce soit en termes de technologie, mais aussi de design? Enfin, votre voiture, on la reconnaît assez facilement. Comment on identifie bien les autres voitures de chaque marque?
Oui, c'est exactement ça. Nous sommes le propriétaire de le design, le développement de powertrain et tout ça. Et ça nous donne l'opportunité, franchement, de mettre en avance notre capacité en termes d'engineering, de performance, de mettre aussi en avance nos valeurs, qui effectivement, c'est le plaisir de conduire, c'est l'émotion de conduire. Et donc ça, c'est très important pour Peugeot aussi. Et c'est pourquoi aussi, évidemment, on montre les voitures aujourd'hui. On
a oui, parce que c'est pour décrire, j'en parle pour nos auditeurs qui nous écoutent aussi en radio sur BFM Business. C'est vrai qu'en fait, sur ce stand, il y a bien sûr la voiture qui court au Mans, mais il y a aussi une partie de la gamme Peugeot qui est présente. Et il y a notamment la gamme PSE. La gamme PSE, c'est votre gamme haute performance, de oui. Votre griffe sportive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, vous avez la 508 aujourd'hui en PSE. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vont arriver? Comment vous allez développer, justement, ce lien entre la course au Mans et puis demain des véhicules peut-être un peu plus sportifs pour la route?
Donc, effectivement, le lien, c'est quoi exactement? C'est parce que le motorsport, Peugeot Sport, on développe les technologies en termes de pneus, en termes d'électrification, en termes de batteries, par exemple. On crée, on développe toutes les technologies pour mettre effectivement dans nos voitures, par exemple, 508 PSE. Donc ça, c'est le lien. C'est un laboratoire technologique pour mettre en avance notre capacité de développer des technologies comme ça. Donc ça, c'est la chose très importante, le lien entre le véhicule de série et le motorsport.
Ça fonctionne, PSE, parce qu'on avait tout le monde s'était très enthousiaste au lancement de la voiture, puis finalement depuis on n'a pas vu de nouveaux modèles. Vous en êtes où? Comment vous allez développer cette gamme?
C'est évidemment le 508, on a une nouvelle, donc effectivement c'est le mi-vie de le 508, donc évidemment ça marche. Mais aussi pour moi, c'est pas juste une question de vente, c'est aussi une question d'image, de montrer notre image de Peugeot. Et aussi un petit peu comme un flagship. On peut parler de l'émotion, le plaisir de Peugeot, de conduire un Peugeot, par rapport à un 508 par exemple, et évidemment avec toutes les gammes.
Oui, il y a la 508 de tous les jours, puis finalement la 508 du week-end,
Une 208 électrique par exemple.
Une 208 PSE, on peut imaginer que ça arrive dans la gamme?
À mon avis, il faut attendre. Franchement, on concentre sur le 508 PSE.
Vous me parliez tout à l'heure des jeunes, on sait que bon, il faut continuer de renouveler votre clientèle. Les jeunes et le sport automobile, il y a encore des jeunes qui sont fans, parce qu'on a l'impression qu'il y a un moment où on disait la voiture, les jeunes ils n'en veulent plus. Comment justement vous évaluez vous ce lien entre la nouvelle génération, le sport auto, l'automobile même?
Mais si on marchait dans les allées de Mans ici, on voit les jeunes, franchement. Ils sont partout. Donc ça, c'est la première chose. Et je crois aussi, c'est pourquoi nous avons choisi des routes de communication un petit peu différentes, avec de mettre la pression sur les médias sociaux, par exemple, pour attirer le client le plus jeune. Mais franchement, quand je regarde autour de nous, il y a toujours une passion pour l'automobile avec les jeunes.
D'où le fait que vous ayez mis aussi ce partenariat avec Lego sur votre stand. C'est aussi une manière de faire le lien peut-être avec cette nouvelle génération.
Oui, donc effectivement, nous avons fait un partenariat avec Lego Technique. C'est un challenge de créer un Lego, le taille normale de 9x8, dans 24 heures. Donc ça, c'est le challenge. Et évidemment, vous avez raison, ça, c'est aussi un lien avec les jeunes. Donc, c'est très important pour trouver les idées, d'attirer les jeunes, mais aussi les clients.
Donc laboratoire en termes d'image, laboratoire en termes de communication. Quelle technologie vous avez utilisée sur cette hypercar qu'on peut imaginer retrouver demain dans la gamme que vous exposez à côté
Mais effectivement, vous avez déjà la technologie sur le 508 PSE, par exemple, avec le hybride, par exemple, aussi sur l'aérodynamique, le pneu. Donc, on a déjà des choses.
Comment vous voyez l'avenir du sport auto? Parce qu'on a l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins. Bon, celle de la 9X8, elle est hybride. On sait qu'il y a tout un travail qui est mené, une certaine réflexion sur l'hydrogène. On sait qu'il y a certains de vos concurrents aussi qui réfléchissent au carburant de synthèse. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la vision de Peugeot de ce que pourrait être, par exemple, le sport auto, les 24 heures du Mans en 2030?
C'est une bonne question. Quand je regarde les chiffres, j'ai vu qu'effectivement, au Mans, pendant le week-end, 300 000 spectateurs. Les guichets sont fermés. Donc ça, c'est la première chose de montrer qu'effectivement, la passion pour le sport automobile est toujours là. Et à mon avis, ça montre aussi que la passion pour l'auto est toujours là. Donc, évidemment, on a fait un choix. En 2030, pour Peugeot, c'est 100% électrique. 100% électrique pour nos ventes. Mais évidemment, nous sommes intéressés par le hybride, par le biofuel, les e-fuels et tout ça. Tout ce que, effectivement, pour mettre nous atteindre notre objectif de devenir carbon net zero par 2038. Et donc, je suis intéressée par tous, mais toujours en lien avec notre stratégie carbon net zero.
Donc, vers de l'électrification, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui.
Oui, exactement, c'est ça.
Merci beaucoup, hein, Linda Jackson, de nous avoir accueillis sur le stand Peugeot. Il y a plein de fans qui commencent à arriver, qui se promènent autour de nous. Voilà, en route pour demain, spécial 24 heures du Mans, c'est déjà fini. C'est passé comme une hypercar dans l'Unodière à vitesse grand V. Je voulais faire un merci très spécial à tous ceux qui ont rendu possible cette émission. Les équipes techniques, bien sûr, nos GRI, Jean-David Duhart et Bastien Petit, Julien Bonnet, bien évidemment, et puis notre productrice. Un grand, grand merci. Alors, Foulquier, prenez soin de vous. Merci à tous et à très vite.
En route pour demain, spécial 24 heures du Mans sur BFM Business et Tech & Co.